Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news. Hello.
Il est 9h40 sur France Inter. La voix n'est pas tout à fait là, mais le cœur y est.
Vous êtes en direct, allez-y.
En Russie, on déporte depuis le XVIIe siècle. Avant la révolution bolchévique, Joseph Staline lui-même avait été déporté en Sibérie. Des camps et des travaux forcés, il fera pourtant le socle de son règne. 28 millions de personnes broyées par un système concentrationnaire longtemps demeuré tabou. C'est toute la question de la mémoire que pose justement Goulag, le documentaire d'Asia Kovrigina et de Michael Prazan. De la trace, des preuves, des chiffres, de la conservation des lieux, de la persistance des images, de la survivance des victimes. Épineux, immensément épineux, la construction du film s'en ressent, torturé, éclaté, sinueux. Une, deux, trois générations après, que reste-t-il des camps russes ?
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Я помню тот Валенский порт и вид пароходов угрюмый, как шмины по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, как шмины по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы на море снесла.
Bonjour, Michael Prazan.
Bonjour, Sonia.
Auteur de plusieurs films sur le nazisme, la déportation des juifs et la question de la mémoire, justement, vous, petit-fils de déporté, quel est votre regard sur cette autre déportation de masse? On va en parler au fur et à mesure qu'on égrène Goulag, qui sera donc diffusé demain soir en deuxième partie de soirée sur France 2, c'est la case infrarouge. L'un des fils est sans doute les plus intéressants, les moins connus que vous tirez lorsque vous commencez à détricoter cette histoire extrêmement dense, extrêmement serrée du Goulag. C'est celui du miracle économique en lequel croyait profondément Staline, notamment en Sibérie orientale. C'est l'histoire d'une région faite de minerais qui deviendra l'un des premiers producteurs d'or, l'un des premiers producteurs d'or au monde grâce au travail forcé.
C'est surtout une région faite de glace, c'est l'endroit le plus froid du monde. Oui. On a tourné pendant un mois, par moins 60, dans des conditions infernales et passionnantes et inoubliables. Et effectivement, au milieu de cette région, grande comme quatre fois la France, se cache parmi les plus grosses réserves d'or et d'étain au monde. Mmh. Et ça, évidemment, c'est un des aspects les plus méconnus du Goulag, c'est-à-dire que c'est une vaste aussi entreprise coloniale d'expansion économique. Et donc, on a ces territoires qui sont aux marges de l'Empire, qui sont parfaitement invivables, où personne de son plein gré n'aurait jamais accepté d'aller.
Jusqu'à moins 60 degrés d'hiver.
Exactement, 60 et parfois même avec des pics à moins 70. Mmh. Et donc, l'idée d'un cynisme absolu était d'envoyer les esclaves du Goulag, les Zecs, hein, ce fameux bois de chauffe de cette expansion idéalisée de l'économie soviétique qui n'aura pas lieu par ailleurs, où on va déporter en masse les gens pour exploiter ses richesses.
Vous venez de prononcer le terme d'esclave, justement, la croissance d'un empire, alors évidemment empire le mot est impropre, mais sur le travail forcé, peut être relié avec des travaux récents d'historiens sur l'esclavage, par exemple, qui ont montré qu'on peut aussi relire l'histoire de l'esclavage africain comme un levier de croissance économique qu'il a été pour l'Occident.
Alors, l'Empire n'est pas un mot usurpé, il faut se souvenir de ce qu'était l'Union soviétique. Oui. Non, c'était un empire. Et il y avait des logiques impériales. Et c'est vrai que cette histoire-là mélange des choses qui traînent dans notre histoire et dans notre imaginaire. Évidemment, l'esclavage, c'est une version des esclavages que nous avons pu connaître, d'un univers colonial aussi. Mais ça ressemble plus finalement à ce qui s'est passé en Australie, par exemple, ou même en France, avec l'envoi des bagnards dans un certain nombre en Guyane ou autre. Donc il y a effectivement des points communs avec ces histoires occidentales qu'on a pu subir ou vivre dans notre passé.
Des ponts et des routes.
Les prisonniers construisaient la route à la seule force de leurs bras. Il fallait un an pour faire 500 mètres. Ils ont commencé en 1941 et ils ont terminé quand Dalstroy a fermé en 1954. Pendant toute cette période, la route était en chantier. Ceux qui ne tenaient pas la cadence mouraient sur place. On versait du gravier sur leurs cadavres et on poursuivait la construction de la route.
Quel était le taux de mortalité sur la route?
La mortalité, selon les données, était de 20 à 25 personnes par jour.
Des ponts, des routes sans fin qui ne serviront jamais. Parfois, vous racontez aussi l'histoire d'un système totalement absurde qui va finir par s'auto-détruire à force de surpopulation après la guerre, Michael Prazan.
Oui, et puis le miracle économique n'aura jamais lieu. En réalité, ça va devenir un puits sans fond. Et c'est vrai que ces grands chantiers inouïs, on pense à la voie morte qui est qui va durer 50 ans. On va essayer de poser des rails, de créer une ligne de chemin de fer sur des reliefs où c'était pas possible. Et ça ne sera jamais terminé au prix de milliers de morts. Donc effectivement, il y a des choses...
Donc système qui va économiquement finir par coûter plus cher qu'il n'a rapporté.
Oui, qui va coûter plus cher que le système de santé. Donc, de ce point de vue-là, le pari est largement perdu.
Alors, c'est aussi le lieu de l'injustice, c'est aussi le lieu de l'arbitraire que vous racontez. Vous multipliez les récits de déportation pour des motifs totalement bénins, totalement absurdes, y compris des enfants. Il fallait remplir.
Oui, et je parlais de cynisme, c'est-à-dire qu'effectivement, on connaît, et je le traite également, mais on connaît le goulag comme une espèce de versant ou d'instrument d'une répression de masse. Et on pense tous à la grande terreur des années 1937-1938. Mais ça n'était pas que ça. Lorsque Dalstroy, la compagnie créée par Staline, qui était censée, donc, dont la fonction était de gérer les camps de la Colima, par exemple, avertissait le NKVD en disant, il nous manque 20 bras pour tel ou tel chantier, eh bien, à Moscou, on fabriquait 20 dossiers de manière totalement arbitraire. On frappait à la porte de ces gens, on les arrêtait et on l'expédiait directement à l'autre bout du continent.
Parce que la grande terreur de 36-37 où on exécute par masse,
à tour de bras,
vous la traitez également et vous montrez bien que ce sont à la fois des lieux d'extermination, ces camps de déportation.
Absolument.
Ce sont aussi des lieux d'extermination.
Il y avait des centres de mise à mort, déjà partout où était implanté le NKVD, donc le grand service de renseignement et de répression de l'Union soviétique, et puis ce qu'on appelait d'ailleurs des polygones, et puis dans chaque lieu d'incarcération ont été créés effectivement des sites de mise à mort qui ont parfois été vraiment à très grande échelle, où on fusillait tous les jours.
Quelle différence avec le système concentrationnaire nazi? Vous qui avez énormément, je le répète, travaillé sur la Seconde Guerre mondiale.
J'ai tissé des points communs qui ponctuent un peu le film entre ces deux systèmes. Mais en réalité, c'est pas des points communs qui reposent sur l'idéologie ou même sur le système totalitaire, bien qu'on pourrait en établir. Mais en réalité, les points communs sont inévitables. À partir du moment où on a à gérer la mise à mort de centaines, de milliers, de millions de personnes et qu'on se retrouve avec la gestion des massacres de masse, la gestion des cadavres, eh bien, on se retrouve dans les mêmes logiques que celles qu'ont vécues les architectes de la solution finale dans l'Allemagne nazie, d'où l'emploi de camions à gaz, d'où l'emploi de fours crématoires, d'où l'emploi donc d'un certain nombre de marqueurs qui ne sont pas tant le fait de l'idéologie, mais de la pratique même du massacre de masse.
Témoignage d'une femme très âgée qui a été incarcérée, qui a été déportée extrêmement jeune. Elle raconte son quotidien dans les camps.
Quelque chose tombait tout le temps du toit. C'était les punaises qui nous tombaient dessus. Elles me mordaient si fort. Et l'eau coulait sur les murs, parce que les murs dégelaient. La nuit, il fallait dormir avec un bonnet sur la tête, car les cheveux pouvaient geler au contact du mur. On nous distribuait des bonnets.
Et à la fin, cette dame dit, dans les camps, il s'est passé des belles choses et des choses horribles. Des belles choses et des choses horribles. C'était ça, on était jeunes. Ça nous a bouleversés parce que, en réalité, ce sont des morceaux de vie entiers.
Ça nous semble invraisemblable d'entendre ça, effectivement, qu'il y avait du mauvais, on peut le concevoir, et du bon, un peu moins. Mais oui, c'est à mon avis quand même une des grandes différences aussi avec, disons, le programme d'extermination nazie ou de concentration nazie. C'était les goulags, malgré le nombre de morts, restaient quand même aussi des lieux de vie. Et ce qui est stupéfiant quand on voit une ville comme Magadan, qui est une ville qui a été créée pour les besoins de la colonisation.
En Sibérie orientale, justement.
Et c'est une ville qui a été faite par les ZEC pour les ZEC, parce que le cynisme du pouvoir allait jusqu'à créer des colonies de peuplement. C'est pour ça qu'on obligeait les ZEC, une fois leur peine accomplie, lorsqu'ils sortaient des camps, eh bien ils étaient assignés à résidence, ils devaient rester sur place pour constituer des colonies de peuplement, parce qu'on avait besoin toujours de cette main d'œuvre, y compris libre, sur place. Mais dans une ville comme Magadan, et ça a été vrai dans toutes ces villes qu'on appelle staliniennes, qui ont été créées dans la foulée du goulag, eh bien, ces villes ont constitué des ruches de créativité invraisemblables. Parce qu'il y avait là-bas les plus grands écrivains russes, il y avait là-bas les plus grands musiciens, les plus grands dramaturges. Oui. Donc il y a eu une créativité incroyable, issue de cette histoire du goulag. Ça a produit quand même de la culture et de la vie. Et la chanson que vous avez passée, qui est une chanson issue de cette culture du goulag, c'est vraiment un des éléments de cette sous-culture, d'une certaine manière, soviétique.
Justement, née du goulag. De la mémoire, parlons de la transmission, parlons du patrimoine que tout cela peut constituer. Question d'image d'abord et de mise en image pour commencer. Pourquoi y a-t-il si peu d'archives dans ce film? Est-ce que les archives sont encore sont-elles inexistantes ou sont-elles encore inaccessibles?
Le terme d'archive est de toute façon, par définition, lorsqu'on s'intéresse à ces périodes, un terme compliqué, parce qu'en réalité, on n'a affaire qu'à des images de propagande. Oui. Et c'est vrai aussi pour l'Allemagne nazie. Donc le travail du documentariste, c'est de déminer quand même le contenu propagandiste de ces images, par le montage, par le commentaire, par le fait de leur faire dire autre chose que ce pour quoi elles avaient été filmées. Après, oui, nous, on a quand même été surpris de découvrir pas mal d'images, malgré tout.
Il en reste beaucoup à exploiter, à votre avis?
C'est difficile à dire. Oui. Moi, j'ai commencé à travailler avec les images russes ou ex-soviétiques dans un film qui s'appelait Einsatzgruppen. On était dans les années, à la fin des années 2000, au début 2010. Il y avait un vrai problème d'archivage. On savait, eux-mêmes ne savaient pas au fond ce qu'ils avaient. Donc aujourd'hui, les choses sont quand même plus rationalisées. C'est beaucoup plus facile de trouver les archives. Mais je suis persuadé qu'il en reste, qu'ils sont encore
inexplorés. Alors, question de mise en image également. Vous sillonnez la Russie, vous l'avez dit, jusqu'aux marges de l'Empire. Et vous produisez, vous, des images absolument somptueuses. Des images somptueuses, le polygone de Boutovo, à l'extérieur de Moscou, qui a été le théâtre de massacres effroyables, y compris en Russie, en Sibérie orientale, filmé au drone, couvert de neige, soleil rasant, magnifique. Est-ce qu'elle pose un problème, la beauté, là, Michael Prazan?
Elle pose un problème par nature, mais j'ai déjà été confronté à ce problème. Lorsqu'on va, comme je citais Einsatzgruppen tout à l'heure, lorsqu'on va en Ukraine et qu'on voit cette campagne magnifique et qu'on voit un bosquet au milieu d'un champ, on sait à coup sûr que...
Un camp d'extermination et un camp de la mort?
Vous savez, non, c'est-à-dire qu'en fait, on a planté des arbres pour masquer les fosses communes. Mmh. Donc, on sait très bien que sous ces bosquets, il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de morts. Et on se retrouve un peu dans
les
mêmes problématiques.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette prairie couverte de fleurs? Question que s'est posée évidemment Claude Lanzmann quand il a tourné Shoah. Qu'est-ce qu'on fait de cette beauté-là? Puisque cette beauté, vous, vous l'avez prise à bras-le-corps. Vous nous emmenez en territoire évinque, chez les Yakoutis, éleveurs de rennes. On est pendant quelques minutes, on doute et on hésite, on se demande si on n'est pas dans la case de documentaire animalier ou découverte du week-end sur France 2. Vous parlez d'une tribu nomade, ancestrale, chamanique. Ces gens étaient chasseurs de fugitifs, ils en rapportaient les oreilles. Le récit est absolument atroce.
Oui, c'est tous ces paradoxes-là, ces effets de contraste qui sont, pour moi en tout cas, les plus saisissants. Mais nous, on a bien ressenti la dureté des choses, parce qu'il y a la beauté invraisemblable de ces paysages, et on savait évidemment que si on allait là-bas, c'est très très inaccessible comme endroit. Il fallait pas se louper, il fallait bien faire les choses, et on a pris du soin au filmage sur très peu de temps, parce que par -60, -70 on peut filmer que 10 minutes dehors. Alors parfois on y a passé 3 heures, c'était très très dur, mais nous on a ressenti ça, c'est-à-dire qu'il y a la beauté des images et puis il y a la cruauté de ce froid glacial qui véritablement malmène les corps et finit par les tuer lorsqu'ils sont trop exposés, ne serait-ce qu'à l'extérieur. Donc on est dans ces paradoxes-là, mais y compris physiquement.
Alors pour le coup, physiquement, vous suivez le corps, la pérégrination, vous suivez le projet, vous suivez le travail, vous suivez la démarche, vous suivez les rencontres, les interviews d'une jeune femme que j'ai citée en début d'émission, qui s'appelle Asia Kovrigina, qui est petite fille de déportés, comme vous, vous êtes petit-fils de déportés juifs. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Parce que finalement, de son histoire, vous faites peu de choses, Michael Prazan. Finalement, de son grand-père, vous faites peu de choses dans le film. Il arrive à la fin du film.
Et au début. Pourquoi elle? Déjà parce que elle. Ce film est né de ma rencontre avec elle. C'est une rencontre qui a eu lieu en 2011 à Kiev, lors d'un colloque sur le massacre de Babi Yar, où pendant la guerre, vous le savez peut-être, 33 771 personnes juives ont été assassinées dans ce ravin, qui est aujourd'hui au cœur de Kiev. Et c'est devenu très rapidement une amie. On s'est trouvé beaucoup de points communs. Et pendant toutes les années de notre amitié, elle m'a poussé à faire un film sur le goulag. Je renaclais un peu. Je sentais aussi que les chaînes n'y étaient pas nécessairement prêtes. Et c'est vrai que le centenaire de la Révolution d Octobre a donné l'opportunité de
Mais
faire ce film.
Mais sa présence à elle pose la question de la transmission, pose la question de l'après-goulag.
Je voulais que la transmission soit une question qui soit au cœur du film. Et par ailleurs, j'avais constaté une chose qui est très simple, c'est qu'il y a eu des centaines de films sur la Shoah, et moi je n'en avais jamais vu que deux ou trois sur le goulag. Donc je suis parti du principe qu'il y avait un problème de transmission, en tout cas à l'intention d'un public d'Europe occidentale. Et je me suis dit... incarner cette histoire par un personnage qui plus est une jeune femme.
Parce que la grande saga Goulag a été faite par des Russes.
Exactement, une femme d'aujourd'hui qui est russe, qui est sibérienne. Et elle est sibérienne parce qu'elle est née en Sibérie, parce que le grand-père était en Goulag, une partie de la famille. Je me suis dit, et elle en était d'accord, que c'était un moyen aussi pour nous d'entrer dans cette histoire et d'attraper le spectateur qui pourra s'identifier à cette jeune femme.
Parce que quel est le rapport des Russes, justement, à cette histoire? Vous dites Varlam Shalamov, grand écrivain des récits de la Kolyma, aujourd'hui fait l'objet d'un culte.
Le plus grand
Russie.
Écrivain du goulag, pour moi en tout
le
cas.
Le plus grand sans doute du goulag, je vous conseille les récits de la Kolyma, c'est édité sublime. Chez Verdier, c'est en papier bible, c'est un livre absolument extraordinaire. Mais en même temps, vous traversez les bâtiments de la Kolyma, et vous traversez des ruines, vous traversez des choses totalement laissées à l'abandon.
Oui, et c'est ce qui m'a surpris aussi, parce que je ne m'attendais pas à ce retour de mémoire à ce point-là. Aujourd'hui, il y a des mémoriaux partout. Il y en a encore très récemment à Moscou qui ont été édifiés. Il y a un musée national du Goulag qui vient d'ouvrir et nous l'avons filmé. Nous avons interviewé son jeune directeur. Et puis, ces baraquements qui disparaissaient les uns après les autres au fil des ans et des décennies, eh bien aujourd'hui, il y a eu une décision de l'État pour qu'il soit déclaré monument historique. Donc il y a un vrai retour de mémoire en Russie qu'on a du mal à imaginer ici. Alors, c'est pas par bonté d'âme. On sait très bien que c'est un sujet délicat qui a été tabou pendant des années. Mais vous savez, cette histoire a impacté tellement de gens. Il n'y a pas une famille soviétique ou ex-soviétique qui, d'une manière ou d'une autre, ne soit pas concernée, soit qu'il y a eu un membre de la famille ou des membres de la famille en goulag ou d'autres qui a été gardien de camp. Et il y avait une certaine, circulation entre le gardien de camp et le zec. Hein. On pouvait être zec et devenir gardien de camp et être gardien de camp et se faire fusiller en 37-38 pendant la guerre.
Sur lesquels vous terminez un dernier camp démantelé en 1900 et fermé en 1986.
Oui, 86-88, c'est-à-dire juste avant l'effondrement de l'Union soviétique, donc ça a perduré malgré tout. Alors, en sourdine, on n'est plus dans des chiffres aussi massifs que durant ces périodes que je traite jusqu'à la mort de Staline, mais enfin, le système des camps a fonctionné jusqu'à la fin.
Merci beaucoup, Michael Prazan. Goulag sera diffusé demain soir sur France 2, la case infrarouge en deuxième partie de soirée. C'est la fin de l'émission.